Ne vois-tu pas la liberté originelle à l'œuvre ? Lui souffle le scientifique, en s'appuyant sur elle pour s'aider à marcher. Je la vois, Philibert. Dommage qu'on ne puisse pas en profiter. Tu as raison. La morale chrétienne nous a plongés dans la jalousie et la honte, soupire le botaniste épuisé. La suspicion de l'équipage vis-à-vis de Jean Barrette est complètement retombée depuis qu'ils sont arrivés à Tahiti. Les mœurs sexuelles libres et insouciantes des habitants de l'île ont fait disparaître les regards envieux que Jeanne sentait sur sa nuque, sur sa poitrine. Et l'esprit des Lumières qu'incarne Bougainville se ressent aussi dans les contacts avec la population indigène. Pas question pour les Français de s'approprier quoi que ce soit. Le respect des habitants est la condition sine qua non pour débarquer à terre. Les marins peuvent batifoler s'ils le souhaitent, mais à la moindre maltraitance ou violence, à l'égard de ces hommes ou de ces femmes, Bougainville est intraitable. Le coupable est puni séance tenante. John s'est aménagé une sorte de bureau à l'ombre des palmiers. Il recense les espèces végétales entourées de jeunes vahinés, fascinés par ces herbiers. Ces livres qui renferment les centaines de feuilles et de fleurs séchées. Son assistant, Jean, mène des expéditions à pied, parfois loin à l'intérieur des terres, avec une pointe de jalousie à l'égard de Philibert qui ne dédaigne pas être ainsi entouré de jeunes femmes nues. De leur côté, Bougainville et ses officiers tentent de maintenir des relations cordiales avec les chefs de ces populations. Pas toujours évident, car la notion de propriété est très différente chez les Tahitiens. Ce que les Occidentaux considèrent comme leur propriété ne l'est pas toujours aux yeux des habitants de l'île. Des incidents éclatent, comme un vol de pistolets ou encore du matériel pour soigner les malades débarqués à terre. Mais Bougainville et les autres officiers se révèlent d'excellents diplomates pour ne pas envenimer la situation. Pourtant, un incident d'une toute autre nature survient. Et celui-là, Bougainville ne s'y attendait pas, ou plutôt si, mais pas de cette façon. Autour du groupe de marins français débarqués ce jour-là, un attroupement s'est formé. Un indigène nommé Aouturu examine les hommes attentivement. Puis, voyant Jean Barrette, il se met à crier en désignant l'assistant de Commerson « Vainé, Vainé !» ce qui signifie « femme ». Très vite, les indigènes se rassemblent autour de lui, ou plutôt d'elle. L'incrédulité et la curiosité déclenchées sont telles que des habitants affluent de partout et encerclent la trentaine de marins. Pas encore descendu à terre, Bougainville observe la scène à l'aide de sa longue vue, depuis la boudeuse, le navire amiral. Il se doute bien de ce qui est en train de se passer. Jeanne est prise à partie. Il la voit se débattre, tandis que les Tahitiens essaient de la déshabiller. Enfin, mais allons, cessez cette mascarade! C'est vraiment pas le moment d'en venir aux mains avec ces gens, fulmine le capitaine. Bougainville ordonne de débarquer immédiatement à terre pour calmer l'agitation. Sur la plage, la tension est encore montée d'un cran. Le quartier maître Le Goff, pourtant le premier à avoir nourri la suspicion autour de Jeanne, est aussi le premier à la défendre et à repousser les indigènes. Dis-leur quelle est ta nature, sinon nous allons être submergés. Mais dis-leur, pour l'amour de Dieu, lui intime le quartier maître tout en s'interposant. Lui et d'autres marins se sont dressés en rempart pour repousser les mains et les regards qui tentent de déshabiller l'infortuné valet. Entourée de cette palissade humaine, Jeanne repousse les mains qui parviennent à passer. Non, s'il te plaît, Jean, assez de cette supercherie, personne n'est dupe, crie le charpentier. C'est ridicule, faut leur dire. Tout d'un coup, un cri retentit. C'est Jeanne. Elle crie « Vainé ». Le silence se fait instantanément parmi la foule des Tahitiens. « Vainé », reprend-elle, en enlevant son bonnet rouge de marin délavé par le soleil et les embruns. Ce bonnet, qu'elle ne quitte jamais, laisse tomber une masse de cheveux noirs. Vainé, continue-t-elle à crier. Cette fois, elle montre ses épaules. Les Tahitiens sont subjugués. C'est la première femme occidentale qu'ils voient. Masquée, découverte, Jeanne s'en remet à Bougainville. Jean Barrette n'est plus. Bienvenue, Jeanne Barrette. Une découverte qui n'en est pas vraiment une, mais qui amène notre héroïne devant le chef de l'expédition pour avoir enfreint l'ordonnance royale. Pas de femme à bord des vaisseaux de Sa Majesté. En tant que capitaine nommé par le roi, Bougainville se doit de jouer son rôle de seul maître après Dieu. Sauf qu'en tant que franc-maçon, il n'est pas précisément un grand défenseur de la doctrine chrétienne. Mais concernant le roi, il lui doit beaucoup, à commencer par avoir pu monter cette expédition autour du monde. Comme toujours avec Bougainville, il fait preuve de discernement. Il rend justice, ou plutôt ses conclusions. Oui, Jeanne Barrette est bien une femme. Oui, elle a enfreint l'ordonnance royale. Oui, oui, tout cela est bien vrai. Mais et alors ? Bougainville la sermonne devant un équipage qui n'est pas dupe de la supercherie et qui s'en accommode depuis longtemps. Jeanne a gagné le respect des marins par sa volonté et sa force. Malgré sa petite taille et son aspect fluet, elle n'a jamais démérité en quoi que ce soit. Elle a plutôt forcé l'admiration. La séance s'apparente plus à une condamnation pour la forme, histoire qu'on ne puisse pas accuser les officiers de n'avoir pas rendu la justice au nom du roi lors de leur retour en France. C'est que pour Bougainville, la jeune femme a aussi une importance scientifique majeure. C'est elle qui a mené la plupart des collectes de spécimens végétaux. Elle n'a pas que transporté du matériel d'herboristerie sur son dos. C'est elle aussi qui a organisé le classement, pris des notes, exécuté des relevés, qui a proposé certaines méthodologies, tandis que Philibert était confiné dans sa cabine sur ordre du chirurgien. En interrogeant Commerson, qui feint l'ignorance, il a bien compris que Jeanne n'est pas seulement l'amante du scientifique. Elle est bien plus que cela. Bougainville rend son verdict. Ce n'est pas bien. Non, vraiment pas bien de se travestir en homme quand on est une femme. Mais il n'y aura pas de sanction. Le soir même, Bougainville note ceci dans son journal. Je n'ai pu m'empêcher d'admirer le courage de cette jeune personne qui, pour suivre son maître et partager ses travaux, a bravé tant de dangers et surmonté tant de difficultés. Les deux navires quittent Tahiti après 9 jours d'escale au milieu de ce paradis perdu de l'océan Pacifique. Un an plus tard, l'anglais James Cook s'attribuera la trouvaille. Ainsi va l'histoire de la découverte de ce monde nouveau, livré à l'appétit des Occidentaux. Mais à la différence de bien d'autres expéditions, Bougainville n'est pas obsédé par la conquête, mais bien par le côté scientifique. Année 1768, la boudeuse et l'étoile poursuivent leur navigation à travers l'océan Pacifique. Les Samoa, les îles Salomon, la Nouvelle-Guinée, autant de terres à peine connues qui offrent de véritables trésors en matière d'espèces végétales. À bord de l'étoile, rien n'a changé, si ce n'est que le bateau transporte officiellement une femme, Jeanne Barrette. Elle n'a pas pour autant rangé son costume de marin. Elle n'attire pas plus l'attention sur elle qu'avant. Pour tout dire, elle a depuis longtemps gagné sa place au milieu de ces hommes de mer. De savoir qu'une femme est à bord n'émeut plus personne. En fait de scandale, c'est plutôt le soulagement de voir cette situation absurde prendre fin. On la traite avec parfois un peu plus d'égard, surtout lorsqu'il s'agit de manier les lourdes rames des chaloupes lors des escalatères. Mais à part ça, elle continue de transporter seule le matériel botanique à travers les forêts et les plaines qu'elle découvre à chaque escale. Armée du porte-herbier, du microscope, des fioles de conservation, sans oublier les buvards, les pinces, 25 kilos de matériel en moyenne. Philibert Commerson est assigné à sa cabine par le chirurgien de l'étoile. Sa santé est trop éprouvée par ses mois de mer, tandis que Jeanne parcourt la nature exubérante de l'océan Pacifique et depuis quelques semaines de l'océan Indien. Le botaniste fait face à une telle quantité d'espèces qu'il lui faut trouver une méthodologie de classement. Et c'est pas simple. Les spécimens ont envahi la cabine qu'il partage avec Jeanne et maintenant l'entrepont de l'étoile. Il faut continuellement trouver de la place dans un espace aussi exigu que celui d'un bateau. L'opération n'est pas aisée. Ce sont des milliers de spécimens qu'il transporte à présent. Une valeur botanique et un témoignage sur la biodiversité inestimable. Cette odyssée scientifique prend fin un jour de novembre 1768, quand l'étoile et la boudeuse arrivent à l'île de France, désormais appelée l'île Maurice. Tout humaniste qu'il est, Bougainville ne peut pas ignorer la justice du roi. En tant que capitaine de Sa Majesté, il se doit de débarquer en territoire français le botaniste et son assistante. Une femme travestie en homme qui fait le tour du monde. Le scandale risque de valoir la prison à Jeanne et Philibert. Rester en Île-de-France est la meilleure option qui s'offre à eux pour l'instant. Surtout que Philibert compte un ami précieux sur l'île. Un certain Pierre Poivre, qui n'est rien de moins que l'intendant des Îles-de-France et un grand amateur de botanique. Il offre au couple un logement de fonction dans une superbe dépendance, ainsi que des conditions de travail uniques dans le premier jardin botanique de plantes tropicales au monde. Le jardin de Pamplemousse, créé par Pierre Poivre. Ce qui aurait pu être un exil se révèle un cadre de travail extraordinaire. Philibert, dont la santé s'est améliorée, repart seul à la recherche d'espèces nouvelles sur l'île. Jeanne, elle, reste. Lasse de devoir jouer les supercheries, lasse aussi de courir la jungle, elle a pu retrouver la femme qu'elle est, dans la discrétion, le calme et la sécurité de leur superbe dépendance. Fini les pantalons de toile, le bonnet et la veste réglementaire des marins de la Royale. C'est le retour de Jeanne. Elle s'est même fait couper et coiffer les cheveux par une domestique de confiance. Un bonheur. Il lui faut un temps d'adaptation pour s'habituer à sa silhouette féminine, qu'elle contemple dans le miroir de sa chambre. Cette femme qu'elle a quittée il y a bientôt 2 ans. Sans relâche, Jeanne déballe les herbiers. Elle recense, complète les notes de Philibert sur ce trésor accumulé au fil de l'expédition. Avec toujours la même phrase en tête. Philibert, Philibert mon pauvre ami, vous êtes un grand scientifique. Mais vous ne pensez pas à la postérité. Classez-moi tout ça, pour un jour être publié et reconnu. Commerson rentre de ses pérégrinations avec toujours plus d'espèces végétales, mais aussi animales et géologiques. Un jour, il attire l'attention de Jeanne sur une nouvelle espèce très intéressante. Un arbre aux caractéristiques particulières. Regarde mes notes, Jeanne. À la lueur des bougies, sur les innombrables tables installées pour pouvoir déposer les herbiers, Jeanne lit « Barretia kivia ». Vous me dédiez cet arbre ? C'est bien la moindre des choses. Lis encore, c'est important parce que je ne sais pas ce que l'histoire retiendra de nous. Mais je veux que tu saches. Allez, vas-y, lis. Et Jeanne lit. Cette plante aux atours et aux feuillages trompeurs, dont le genre masculin ou féminin est difficile à définir, est dédiée à la vaillante jeune femme qui, prenant l'habit et le tempérament d'un homme, eut la curiosité et l'audace de parcourir le monde entier par terre et par mer. La voix de Jeanne finit par s'étrangler dans un sanglot. Elle prend Philibert dans ses bras. Celui-ci la garde longtemps serrée contre lui. Philibert Commerson ne publiera jamais rien. Ironie du sort, il meurt en 1773, l'année même où il est admis à l'Académie des sciences en France, laissant Jeanne seule sur l'île Maurice avec plus de 5000 espèces de plantes, dont 3000 nouvelles variétés. C'est elle qui va s'occuper de faire parvenir en France l'ensemble de ce trésor, dont la majorité arrivera au roi Louis XV. Celui-ci a été mis au courant par Bougainville du rôle de cette Jeanne Barrett, travestie en homme. Et ce n'est pas une sanction royale qui attend Jeanne quand elle boucle son tour du monde en 1775. Elle est officiellement déclarée femme extraordinaire, avec une pension royale à la clé. Jeanne n'est pas revenue en France les mains vides. Entre-temps, elle a fait fortune à l'île Maurice et s'est mariée à un officier français. Beaucoup plus riche que son mari, elle exige un contrat de mariage pour conserver 2/3 de ses biens. Qui aurait pu prédire que cette petite fille prénommée Jeanne, issue d'une famille pauvre et illettrée de la Bourgogne du XVIIIe siècle, allait faire le tour du monde et revenir riche, indépendante et reconnue pour ses découvertes scientifiques.